Alors, on va attaquer cette conférence qui est intitulée La nouvelle SF politique française 1968, 1868, pardon, 1968-1978, révolution littéraire ou impasse. Avec Jacques Baudou à mes côtés, Philippe Curval et Dominique Douet. Je vais faire un petit tour d'horizon pour ceux qui éventuellement ne les connaîtraient pas, mais ce serait moche. Jacques Baudou, à mes côtés, journaliste, critique, directeur de publication, connaît tous ses travaux, notamment pour le journal Le Monde. Pendant combien de temps au Monde? Bon,
pendant plus de 10 ans.
Et puis également auteur. Désormais, maintenant, ouais. Avec ce magnifique ouvrage, La lisière de Bohème, aux éditions des Moutons Électriques. Dominique Douet. Première nouvelle en 1973, avec des ouvrages, car les temps changent, la vie comme une course de char à voile, mais aussi l'impasse-temps, et puis plus récemment, La fenêtre de Diane, également aux Moutons Électriques. Pour un espèce de comeback, de retour, mais quelqu'un qui a commencé dans cette période des années 70 qu'on va essayer de décortiquer. Et puis juste à côté de moi, Philippe Curval, auteur et illustrateur, avec notamment des ouvrages comme L'homme à rebours, Cette chère humanité, La face cachée du désir. Pas mal d'ouvrages en ce moment que vous pouvez retrouver aux éditions La Volte, L'Europe après la pluie, hein, qui reprend Cette chère humanité, etc., Aquiloé, et puis chez Folio, la forteresse de coton. Journaliste également, dans ces périodes-là, critique, qui va nous donner un petit peu son regard. En préparant cette table ronde, en regardant, je suis retombé sur un texte de Roland Wagner, qui répondait à Jean-Christophe Ruffin, donc dans Le Monde diplomatique, et qui évoquait les années 70. Qui disait, Roland Wagner, juste pour vous planter le décor, puis après on parlera politique, qu'un auteur français pouvait très bien vendre 40 000 exemplaires d'un roman, autant vous dire que ça fait rêver aujourd'hui, on a enlevé 2 zéros, qu'il y avait une centaine de romans français de SF dans ces années-là, chaque année, qu'il y avait une quarantaine de collections de science-fiction, et une volonté chez certains auteurs d'employer l'outil de la science-fiction à des fins politiques. Donc on va pouvoir en discuter. Peut-être un premier tour d'horizon sur cette période-là, quelle était un petit peu l'ambiance dans les mondes de la science-fiction, et quand on parle de science-fiction politique, quelle était cette politique qui arrivait dans les romans? Philippe.
Bien, c'est une initiative un peu après le livre de Bernard Blanc qui s'appelait « Pourquoi j'ai tué Jules Verne ?» donc auquel il ne répondait pas vraiment, mais qui est à relire maintenant avec une certaine dérision, il faut bien le dire.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Donc à partir de lui, il a aggloméré un certain nombre d'auteurs qui ne pensaient pas à mal, et leur a dit, c'est très mauvais, la science-fiction est politique, d'abord, il faut mettre la politique avant la science-fiction. Et donc, à ce moment-là, il a créé chez aux éditions Kesselring, donc même Michel Jury a participé. Je crois que même moi, il m'a fait écrire une ou deux nouvelles dans des recueils de... je me souviens, J'aime le béton froid.
Très bien.
Et donc, c'est un mouvement qui a quand même terriblement appauvri le public de la SF, parce que la politique étant trop présente, alors que la science-fiction, elle est naturellement politique. On ne peut pas dire que ça a été une grande expérience, mais enfin, ça a été une expérience tout de même. Ouais.
Quel souvenir tu gardes, Jacques?
Moi, j'étais simple lecteur. Donc, contrairement à Dominique et à Philippe, j'étais simple lecteur. C'était fiction, hein, la revue de référence de l'époque, qui, heureusement, avait échappé à... d'une manière assez importante à cet ouragan. Mais je dois dire que quand j'ai eu entre les mains pourquoi j'ai tué Jules Verne, ça m'a très énervé. Et une des choses dont je suis le plus fier dans ma carrière de critique au Monde, c'est qu'à chaque fois que j'ai pu assassiner ce bouquin, je l'ai fait. pour compléter ce que disait Philippe, il faut savoir aussi que là, après deux revues, ou trois peut-être, chez Kesselring, qui s'appelait Alerte, l'auteur de « Pourquoi j'ai tué Jules Verne » a fondé une revue qui s'appelait « Ici et maintenant ». Et on ne peut pas trouver de titre plus antinomique à la science-fiction que ça. Et le mouvement est mort de sa belle mort. Il a été assez rapidement, enfin en 78, remplacé par un autre mouvement qui a eu une durée de vie encore plus courte. Mais il faut dire aussi que peut-être ce mouvement a pu naître parce qu'on sortait d'événements qui nous ont tous touchés à un titre ou à un autre. Moi, j'étais étudiant en 68, donc je peux vous dire que ça m'a particulièrement touché. C'était le mouvement des étudiants de 68 qui s'est étendu à pas mal d'autres gens. Et puis que d'une manière beaucoup plus générale, il y a un mouvement de la jeunesse partout dans le monde à la fin des années 60. Et que donc le contexte est assez propice à ce que à ce qu'on utilise les textes de science-fiction pour faire de la politique. Alors là, le seul problème, c'est qu'on peut peut-être en faire de manière intelligente et que là, on ne peut pas dire que ça a été fait de manière intelligente.
Non. Donc, y a une histoire de contexte.
Oui, il y a le contexte, c'est clair.
Et évidemment, sur le contexte de la science-fiction, anticipation qualifiée, par exemple, de collection de science-fiction de droite, est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est en tout cas un argument qu'on retrouve quand on parle de cette période-là? Est-ce que c'est une réaction ou est-ce que c'est juste le contexte?
Non, parce que Bernard Blanc n'excluait pas le reste de la science-fiction. D'ailleurs, comme il était très arriviste à l'époque, finalement, c'est pour ça qu'il a fait ça, pour essayer de faire un coup dans les médias. En réalité, c'était un personnage qui voulait faire... J'en ai connu beaucoup comme ça, des gens qui m'ont écrit en disant « Voilà, j'arrive à Paris, je vais faire éclater la science-fiction. » Je les ai vus, bon, ils sont arrivés, puis ils se sont effondrés comme tout le monde. Et Bernard Blanc, donc, finalement, avait avant tout l'idée de faire un coup, quoi, parce que finalement, il critiquait mes romans dans ces trucs d'une manière extrêmement laudative, et qui était toujours en train plutôt de me flatter. Parce que son idée, c'était en me flattant, qu'à cette époque, j'étais, moi, au contraire, critique au monde, et donc il pensait que j'allais en dire du bien de tout ce qu'il faisait. Donc j'ai fait une critique, d'ailleurs, de pourquoi j'ai tué Jules Verne, que Jacqueline Piatier, qui dirigeait Le Monde des Livres à l'époque, a qualifié de nouillesque.
Un petit mot de Dominique.
J'aimerais bien parler un petit peu.
Mais bien sûr, bien sûr.
Non, sinon, je me demande pourquoi je suis...
Bah, bien sûr que non.
Non, bon, pas mal de choses ont été dites que je partage, hein, profondément, et notamment ce que vient de dire Jacques sur l'après 68. Effectivement, moi aussi j'étais en fac en 68, on a été marqué profondément par ce qui s'est passé à ce moment-là. Il faut voir aussi ce qu'a été l'après 68, c'est-à-dire que bon, le pouvoir est resté, le pouvoir gaulliste est resté en place, a même été renforcé en fait. L'extrême gauche a éclaté en groupuscules qui ont commencé à se faire des guéguerres. En fait, les nouveaux auteurs de science-fiction qui sont apparus après 68, à commencer par Jean-Pierre Andrevon, dont le premier texte est sorti en mai 68, ça n'entre pas. Mais donc, tous ces auteurs-là, en fait, s'inscrivaient dans cette histoire plus large, plus vaste. Moi-même, mon premier texte est sorti en 73, donc ça faisait un petit peu moins de 5 ans après. Alors, c'était vraiment marqué par les idées 68-ardes. En 73, a eu lieu la première convention de science-fiction à Clermont-Ferrand. Et là, puisqu'il en a déjà été question, je ne voudrais pas qu'on focalise tout le débat sur Bernard Blanc. Mais bon, je replace les éléments d'histoire. À cette convention, c'est Le temps incertain qui a été primé, c'était donc ça l'événement. Mais l'autre événement, qui est passé complètement inaperçu à l'époque, c'est qu'est apparu un personnage qui avait beaucoup d'entre-gens et qui a phagocyté une partie des personnes qui se trouvaient à cette convention. C'était donc Bernard Blanc. Ensuite, il a commencé à intervenir dans les pages de fiction de façon très... il était très marqué par le situationnisme. Et donc, il faisait de l'entrisme vraiment dans fiction. Peu de temps après, il y a eu une convention européenne à Grenoble. Une convention européenne. Oui. Et c'est là que, réellement, il s'est constitué une école autour de lui. Il faut voir que ce personnage vidrionnaire voulait en fait acquérir du pouvoir. Et pour acquérir du pouvoir, il lui fallait un certain nombre d'adeptes. Ça fonctionnait un peu comme... C'était un peu le gourou d'une secte. Et ça fonctionnait vraiment comme une secte. On peut dire que ça fonctionnait aussi comme certains mouvements littéraires. Je pense qu'il prenait aussi un peu ses leçons sur André Breton. Donc il procédait par adhésion et par excommunication. Voilà. Très vite, donc, il s'est imposé comme l'espèce de pape de ce qu'il avait créé, lui. C'est lui qui a donné le nom de nouvelle science-fiction française. C'était ni nouveau, enfin si, c'était français, c'était la science-fiction française, mais ce n'était pas franchement nouveau. Ce qui était nouveau, c'était la façon d'enrégimenter les auteurs. Et ceux qui refusaient d'être enrégimentés finissaient toujours par être exclus d'une façon ou d'une autre, d'être attaqués dans les pages de fiction, puis d'alerte ou d'univers. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était un peu. Oui, c'est ça. Ça bougeait, donc les choses étaient drôles. Ça faisait l'impasse sur le fait que, par essence, comme le disait Philippe, la science-fiction est une littérature politique puisqu'elle parle de notre futur. Et notre futur, on peut pas le voir. Mais de façon, quand je dis politique, c'est sans ça, je ne parle pas de politique politicienne. La conception de Bernard Blanc, c'était plutôt de faire retomber la politique au niveau politicien. Ça a duré quelques années. Après avoir trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça un peu pesant. Et personnellement, là, je parle uniquement pour moi, hein, mais personnellement, j'ai rompu à peu près au moment où paraissait pourquoi j'ai tué Jules Verne. Ça devait être en 76 ou 77, je pense, quelque chose comme
78,
ça. 78, oui. 78. Donc c'était vraiment... Ça a quasiment marqué la fin du mouvement, parce que là, on s'est tous aperçus qu'on s'était laissé enrégimenter par quelque chose qui nous plaisait pas. Enfin, tous, quand je dis tous, non. Et malheureusement, il y a des auteurs qui étaient de bons auteurs, qui n'ont pas su réagir, je pense, et qui, en fait, ont... je sais pas, je parle pas assez.
Non, c'est pas ça, les micro-marches.
Je pense à des auteurs comme Jacques Boileau, qui auraient pu avoir vraiment une belle carrière d'auteur, et dont la carrière a été brisée net en fait par le fait qu'il obéissait au diktat de Bernard Blanc. Voilà ce que j'ai pour ma part à dire sur cette époque. J'espère que ce que j'ai dit avant que les micros ne marchent était audible. Je vous promets pas de répéter tout ce que je dis.
Est-ce que, parce que c'est vrai que c'est quelque chose peut-être dont on a moins l'habitude maintenant, et quand tu parles de politique politicienne, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on regardait les livres de science-fiction avec une grille politique, véritablement, comme on peut l'entendre, droite-gauche ou extrême-gauche, ou des choses comme ça?
La grille était beaucoup plus simple que ça. Hein. C'était très manichéen, hein. C'était blanc ou noir. Tu es un fasciste ou
absolument.
Voilà, c'était ça, en fait. Alors, d'une certaine façon, les choses n'étaient pas complètement fausses, parce que c'est vrai qu'au Fleuve Noir, il y avait un certain nombre d'auteurs qui écrivaient au Fleuve Noir depuis des décennies, et bon, qui ne se situaient pas franchement à gauche. Donc il y avait peut-être là quelque chose qui était peut-être sain, en fait, bon, c'était peut-être de montrer que la science-fiction n'était pas univoque et qu'on pouvait parler de problèmes différemment.
Donc il s'agit justement de la rendre
inutile. Non, mais je pense d'ailleurs que de toute façon, il y a une certaine perversité dans la science-fiction, parce que on peut effectivement trouver des auteurs militaristes, des auteurs qui sont franchement de droite et qui expriment des idées de droite. Mais très souvent, par exemple, il y a des auteurs qui sont d'une... On ne peut pas exactement déterminer, parce que comme ils parlent du futur et que les choses évoluent selon des modalités tout à fait différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment de droite ou de gauche. Peut-être qu'ils le sont profondément. Plutôt à droite, mais avec des idées idéalistes, utopiques, etc., ils arrivent à transcender un peu leur discours, et finalement, on est dans une mixité où on ne sait pas exactement si l'auteur est politiquement de gauche ou de droite. Mais il exprime des idées politiques qui lui sont personnelles, ce qui est quand même assez intéressant d'un certain point de vue. Mais il faut bien dire quand même que ce qui a permis à Bernard Blanc et à sa science-fiction politique française de survivre pendant quelques années, c'est qu'il y avait un éditeur qui s'appelait Kesselring, qui était en Suisse, et qui a publié tous ses livres. Donc évidemment, comme à chaque fois, à l'époque, quand même, un roman de science-fiction se vendait facilement en livre normal dans les 15 000 exemplaires, en livre de poche 60 ou 80 000, il est évident que Kesselring, lui, quand il vendait des ouvrages, c'était 2500, 1500, 750... Et donc, finalement, au bout de 3 ans, les éditions Kesselring sont mortes. Ce qui fait que ça a contribué grandement à la fin de la science-fiction politique française.
Oui. Juste à titre anecdotique, tout à l'heure, il a été question de « ici et maintenant ». Et je pense qu'en parler un peu, c'est montrer à quel point le phénomène... nouvelle science-fiction politique française était un phénomène manipulé, puis bon, ça n'allait pas très loin dès le départ, parce que, en fait, Bernard Blanc a pris ce titre-là, ici et maintenant, par référence à Ailleurs et Demain, bien sûr, mais en ignorant complètement que Ailleurs et Demain, c'est un titre qui avait été pris par Gérard Klein, par référence à Iketnunk, la phrase principale des psychanalystes. Donc, alors, en fait, en voulant paraître comme tout à fait moderne, novateur, etc., Bernard Blanc reprenait un thème qui existait quasiment depuis l'Antiquité. Oui.
Jacques.
Oui, d'ailleurs, le livre sur Jules Verne, Pourquoi j'ai tué Jules Verne, c'est aussi... très simplement un premier tuer le père, hein. Oui. C'est aussi d'ordre psychanalytique, sauf que quand on tue le père, il faut essayer de le tuer proprement. Et alors là, les pages qui sont consacrées à Jules Verne à l'entrée du livre sont assez terrifiantes, parce qu'elles manifestent une inculture absolument totale sur ce qu'était Jules Verne. On en fait un chantre d'une science-fiction optimiste et technocratique. Alors ça peut déjà beaucoup se discuter. Et à un moment, Bernard Blanc dit que Jules Verne détestait la science-fiction. Alors, ces deux arguments sont absolument irrecevables. D'abord, c'est ignorer que Jules Verne, pour toute la production qu'il a faite, était lié à un éditeur qui s'appelait Hetzel. Et qu'Hetzel a refusé un livre que nous connaissons maintenant, qui est Paris au XXe siècle. On ne peut pas dire que Paris au XXe siècle soit un livre très optimiste. La deuxième chose, c'est quand on dit qu'il déteste la science-fiction. Jules Verne a échappé une fois aux oukases hetzaliens de manière assez marrante, c'est que on lui a proposé d'écrire avec quelqu'un qui avait l'habitude de faire ça un spectacle pour le Châtelet. Le Châtelet, c'était les grandes mises en scène avec des effets spéciaux. Et ce texte qu'il a écrit avec Adolphe Denry a été publié plusieurs fois récemment, on peut le lire. Ça fait référence à plusieurs romans de Jules Verne, mais surtout, la dernière partie, ça fait référence au Gun Club, hein, de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Et là, ils envoient un obus dans l'espace, et ils arrivent sur une planète, on ne dit pas plus dans la pièce, sur laquelle il y a des extraterrestres. Et c'est pas de peau, ils arrivent juste au moment où la planète explose. Donc, il n'y a pas de description d'extraterrestres. Ça veut dire que Jules Verne, quand il écrivait avec Adolphe Denry, n'excluait pas du tout la possibilité qu'il existe d'autres races. Et toute l'œuvre de Jules Verne est truffée de petits trucs qui sont des trucs de vraie science-fiction imaginaire, des champignons géants, des dinosaures, etc. Donc, on ne peut pas, quand dans 20 milieux sous les mers, on découvre les ruines de l'Atlantide, on n'est pas dans le domaine de la science-fiction technocratique. Et le seul bien qu'il trouve à Jules Verne, c'est une nouvelle, L'Éternel Adam, dont tous les Verniens savent pertinemment qu'il n'a jamais été écrit par Jules Verne, mais par son fils Michel. Alors, moindre des choses, quand on tue le père, c'est d'essayer de le faire correctement.
D'ailleurs, à propos de Jules Verne, il y a quand même une chose importante. Il y a tout un courant actuellement qui cherche à démontrer que Jules Verne n'a jamais écrit science-fiction. Un des prophètes de cette idée, c'est Michel Serres. Et alors, Michel Serres, donc, décrit pourquoi Jules Verne n'est absolument pas de la science-fiction. Et après, il se pose cette question, il se dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'auteur qui pense à l'avenir et qui puisse décrire l'évolution de la technologie? Donc, ce Michel Serres a décrit que Jules Verne n'écrit pas de la science-fiction et il reproche aux écrivains d'aujourd'hui de ne pas en faire. C'est absolument extraordinaire.
Est-ce que ça voulait dire que... Donc on a bien compris l'aspect peut-être marginal des choses, on peut le dire comme ça, sur cette nouvelle science-fiction politique française. Est-ce que ça donnait lieu quand même à des débats? Est-ce que ça avait un écho au sein, entre les auteurs, avec les journalistes? Je vais venir à l'accusation du siphonnage du public, en tout cas de cette image-là.
Oui, en fait, c'était même stratégique, au moins tactique pour Bernard Blanc, c'est que plus le débat était important, et plus ça lui faisait de la publicité. C'était une simplicité. Donc, il fallait alimenter le débat en permanence, et le débat s'alimentait en permanence, c'était pas un débat d'idées, mais c'était un débat à dominante, chaque fois, sur tel ou tel, on démolissait tel ou tel auteur. J'ai pas tout à fait terminé mon histoire tout à l'heure, mais je regrette de citer mon exemple, mais j'en vois pas d'autres à citer. C'est que en fait, très vite je me suis aperçu qu'écrire des tracts, ça ne présentait pas grand intérêt parce que ça n'amenait rien par rapport aux autres tracts qui pouvaient être diffusés à cette époque-là. Donc qu'il valait mieux écrire vraiment de la science-fiction, vraiment des récits de science-fiction, qui eux posaient des problèmes. Je rejoins ce qu'a dit un jour Yardal, que la science-fiction était probablement le genre littéraire qui était le plus proche de la philosophie. Donc voilà, c'est pour montrer que en fait la science-fiction est pertinente lorsqu'elle pose le débat à un niveau assez haut, elle ne l'est plus du tout quand elle prétend faire de la politique politicienne. Alors je disais tout à l'heure qu'un certain nombre d'auteurs avaient vu leur carrière en fait pas brisée mais amoindrie ou gênée par l'interventionnisme constant Bernard Blanc. Personnellement, moi, à partir d'un certain moment, j'en ai eu assez de ces attaques incessantes, de cette sorte de recherche de culpabilisation. Mais ce que tu as écrit, ce n'est pas franchement de gauche. C'est pas là le débat. Et j'ai fini par arrêter d'écrire. J'ai arrêté pendant 25 ans.
Alors sur le plan politique, quand même, il avait une chose derrière Blanc, c'est qu'il a amené, bon, Andrevon évidemment avait déjà écrit spontanément des livres où l'écologie est tout à fait présente, mais la seule apport vraiment à la science-fiction qu'aura pu avoir Bernard Blanc, c'est justement de relancer le point de vue écologique, parce que vraiment il était très écologique. Bon, je sais que depuis quelque temps il traduit des romans militaires, mais enfin ça ne me...
quels sont, alors peut-être pour poser un petit peu plus les choses, quels étaient les auteurs, quels étaient les livres qui sont rentrés, qu'on peut rentrer dans cette nouvelle science-fiction politique française? Parce qu'on a cité beaucoup Bernard Blanc, mais est-ce qu'il y a d'autres livres ou titres qui font...
Il y a eu Maxime Benoît-Janin, qui a écrit un livre ou deux. Je sais pas très bien. Simplement, il avait aggloméré plutôt un certain nombre d'auteurs qui existaient déjà pour les persuader de l'accompagner dans son mouvement, puisqu'il a même... Donc moi, j'ai écrit une ou deux nouvelles pour m'amuser, mais en gardant mon point de vue personnel, ne faisant pas du tout de la science-fiction politique, mais faisant de la politique à travers la science-fiction, ce qui est totalement différent. Mais bon, il a attiré Jury, qui le Jury pouvait écrire parce qu'il avait besoin de vivre, donc il écrivait dès qu'on lui commandait quelque chose, parce que finalement, il était tout seul en Dordogne, en train de garder un château, et il n'avait pas beaucoup d'argent. Il marchait pieds nus dans ses chaussures, et la première fois que j'ai vu, il n'avait plus de dents. Donc c'était quand même quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a réussi à sortir de la misère grâce à son écriture. Donc il était prêt à adopter, pas le point de vue de Bernard Blanc, mais à l'accompagner à travers des romans qui n'avaient strictement aucun rapport avec la science-fiction politique. Ce qu'on peut dire, non, alors là, il y a quelque chose qu'on prétend aujourd'hui, c'est que à cette époque-là, donc dans les années 78, où la science-fiction a commencé un peu à péricliter, donc deux mouvements ont assassiné la science-fiction française. C'est d'abord la science-fiction politique française qui a fait réduire les tirages dans des moyens extraordinaires, et par ailleurs, Limite, qui à mon avis était une expérience très intéressante à laquelle j'aurais dû participer dans un deuxième temps. Bon, c'était un point de vue de faire de la littérature extrêmement expérimentale à travers la science-fiction. Et donc on prétend qu'à la suite de ces deux mouvements, la science-fiction française a agonisé. Moi je pense que ça a été qu'un épisode tout à fait... Sur le côté.
Dominique, tu voulais dire quelque chose?
Oui, dans les ouvrages représentatifs de la nouvelle science-fiction française, on peut citer une anthologie réalisée par Joël Houssin et Christian Villa qui s'appelait Banlieue Rouge. Je pense que c'est qui cherchait à être un peu le manifeste d'une science-fiction autre, mais qui n'était pas exactement non plus celle de Bernard Blanc. C'est vrai que ça, en fait, ça parce que plutôt l'optique Houssin au Villa, c'était plutôt une optique anarchiste, punk.
Oui, question. Je sais que vous posez une question.
La question sera après.
Moi,
j'ai découvert cette... Après, j'ai arrêté de dire la SF, mais j'ai beaucoup aimé cette SF politique à travers une collection qui était chez Ancre, qui s'appelait Utopie. J'ai recherché là, parce que je me rappelle plus les titres, mais il y avait Les Années de Sable de Boireau, Les Compagnons de la Marseillaise, par contre, j'étais l'auteur.
Oui,
Marçon.
Mais qui étaient des textes très forts. Boireau, c'était très fort.
Oui.
En dehors de Kesselring, c'était beaucoup d'anthologies, des textes très courts et un peu intéressants. Quand vous dites que moi, pour moi, Baron est plus un art, alors que quand je vois le discours, il y a un côté autocritique, il y a un côté maoïste chez Baron.
Oui, je dirais plutôt situationniste.
Non, mais le côté je te mets en cause, tu dois répondre et tout ça, c'est.
Ah oui, oui,
Mao.
Oui, oui, oui.
C'est clairement l'autocritique Mao, c'est pas libertaire. C'est. Si tu réponds pas, la cellule est exclue. Alors que dans Baron, moi, je ne trouvais pas ça, je le trouvais très libertaire, Baron.
Oui, oui, absolument.
Non, mais c'est pour ça que je le citais tout à l'heure, parce que, en fait, je pense que Jacques Boirot a pâti du fait que, bon, c'était Bernard Blanc qui dirigeait la collection chez Rank, et le fait d'être publié dans une collection dirigée par Bernard Blanc, je pense que ça lui a porté préjudice.
Et pour finir, c'est un peu aussi la folie de l'époque, parce que Frémion, par exemple, qui aujourd'hui est un vert libéraux-libertaire, on dira, libéral-libertaire, quand il a fait les trucs de l'histoire, une sorte de gros bouquin illustré sur les. Il fait l'apologie, et par exemple, il fait l'apologie de la révolution culturelle et des gardes rouges. Aujourd'hui, on trouverait ça complètement délirant, mais c'est l'époque.
Enfin, bon, même à l'époque, on était quand même un certain nombre à être plus lucides.
Oui, mais
politiquement parlant.
Mais aujourd'hui, quand on pense à Frémion, on ne pense pas à ce discours maoïsant.
Non, non, mais quand on pense à Aragon, on ne pense pas non plus à son poème sur le Guépéou. Hein.
Oui, vu le Guépéou. Mais Armand Robin lui a répondu. C'est de la merde. Mais bon.
Monsieur. Moi, je pense que tout à l'heure, Dominique a dit quelque chose de très important sur l'aspect groupusculaire post-68. Ça a été je pense que beaucoup de gens, ça a été quelque chose d'extrêmement important dans le sens positif. Ça a donné des idées, ça a bouillonné, ça partait dans tous les sens. Beaucoup de gens, moi j'avais 12 ans en 68, donc je suis un peu juste après. Les gens ont vraiment cru qu'il allait se passer quelque chose. Et il y a eu une déception terrible. Alors il y a des gens de cette époque-là qui sont tombés dans le terrorisme, hein, qui sont partis à se battre en Amérique du Sud. Il y a beaucoup qui sont suicidés, il y a eu des phénomènes de toxicomanie importants dans cette génération-là. Et puis il y a des gens qui ont surfé sur la vague, et qui ont utilisé en fait ce qui restait d'espoir ou de désespoir, moi je pense comme ça, pour manipuler les gens. Et je pense qu'on est vraiment dans cette situation-là. Alors je ne sais pas si Bernard Blanc était Mao, etc. Moi j'appelle ça un gauchiste, comme on le disait de façon péjorative à l'époque, c'est-à-dire qu'il a utilisé des éléments de pouvoir au nom d'une théorie de la libération. Et ça c'est terrifiant pour moi. C'est totalement terrifiant. Et en revanche, là où je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des textes, on parlait d'amalgame tout à l'heure, dans la collection de Kesselring, il y a des gens quand même, Joël Vintrevert, Pierre Pellot, il y avait des gens qui avaient une idée politique et qui ont dit, bah tiens, on a peut-être une nouvelle façon de faire passer nos idées. Les Olympiades truquées ont été rééditées il n'y a pas très longtemps, donc tout n'est pas mauvais dans l'histoire. Et je pense qu'il y a quand même, et Boirot, c'est un très bon exemple d'un bel écrivain, enfin je veux dire, c'est. Et donc, alors qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu exagération, je crois que le pire pour moi, c'est le bouquin d'Andrevon, des grandes chasses, c'est ça, où Jean Édernalier est enlevé, il y a une histoire de rançon autour de Jean Édernalier, enfin des trucs, alors là on est dans le surréalisme total, ça c'est un peu inimaginable qu'on ait pu faire comme ça, mais il faut situer ça dans le contexte de l'époque, voilà, mais qui a eu manipulation, alors on a vu beaucoup de gens, post-68 tard, qui avaient besoin de se faire mousser, qui sont devenus depuis des responsables politiques, des grands dirigeants, des banquiers, des machins. Ça fait partie certainement de cette génération. Je ne sais pas ce qu'est devenu Bernard Blanc, c'est une question que je pose.
Il traduit des romans militaires.
Et il intervient de temps à autre sur Internet pour sortir des idées à peine moisies.
Moi, je voudrais dire une chose, c'est que la manière dont Bernard Blanc s'est comporté en pape de la nouvelle science-fiction française, d'autant plus gênante qu'un des grands slogans de 68, c'était plus de mettre à penser.
Et ce qui a tué la science-fiction française, c'était la volonté de Bernard Blanc d'exclure tout ce qui n'était pas conforme à son idée.
Oui, mais ça n'a pas vraiment tué.
Non,
je pense qu'on
n'a pas d'autres
problèmes. Ça l'a. Problème. Disons
non,
que ça
de toute façon, on n'a jamais dit une seule fois jusqu'à présent que les écrivains, tous les écrivains qui participaient à la science-fiction politique française étaient mauvais.
tous les bons écrivains écrivaient toujours de bons livres. Ça n'a pas nécessairement entamé leur qualité littéraire. Là, c'est complètement... c'est pas parce que ça paraissait dans une collection, parce que ça paraissait dans une anthologie dirigée par Bernard Blanc, la qualité des textes restait. Et vous pouvez relire Alerte, par exemple, vous pouvez relire les quelques...
Mais pas ici, non.
Anthologies, oui, les quelques anthologies. Il y a de très bonnes nouvelles à l'intérieur qui portent un peu un message politique, mais enfin qui ne sont pas complètement submergés par une politique orientée par justement cette espèce de gauchisme avachi.
Le problème n'est pas qu'il y avait du bon que Bernard Blanc laissait passer, mais il y a eu beaucoup de bons qui seraient parus aussi à côté que Bernard Blanc empêchait de paraître, à mon avis.
Non. Personne ne peut empêcher un auteur de paraître, sauf de ne pas publier son livre.
Enfin.
Moi, ce qui m'intéresse, alors pour le coup, mai 68, j'étais même pas un projet, donc comme ça, c'est réglé. Vraiment pas, hein, pour le coup. Bref, enfin, bon, on va pas faire de chronique là-dessus. Me semble-t-il, tout du moins dans les témoignages et dans ce que vous dites, ma question c'est, est-ce que les écrivains, est-ce que la science-fiction a une conscience politique dans le fait d'écrire plus forte peut-être qu'aujourd'hui ? Lié à cette époque. En fait, ce qui m'intéresse, c'est cette époque. Quand on parle de mouvements gauchistes ou même de séparation, y avait-il des intentions, au-delà de cette nouvelle science-fiction politique française, des intentions politiques un petit peu plus fortes dans l'acte d'écrire ou de conscience ?
Oui, mais ça, c'était dans l'air du temps. Hein, et ça touchait pas seulement la science-fiction. Je pense que ça a touché un peu tous les genres littéraires. Le polar. C'est une époque où on a vu surgir plein d'auteurs de polar talentueux et qui étaient réellement politiques. Enfin, ils n'ont pas été embrigadés, eux. Ils ont eu de la chance. C'est vrai que. Il ne faut pas. C'est pour ça que je suis quand même un petit peu gêné de me focaliser sur un personnage, parce que il y a toujours il y a très souvent des personnages comme ça qui arrivent au moment donné, au bon moment, parce qu'ils ont su saisir un truc, ça rentre dans une stratégie individuelle de pouvoir. C'est vrai, je me souviens, puisque Philippe est à côté de moi, je me souviens d'une de mes lectures de l'époque qui m'avait soufflé, c'était Cette chère humanité, qui est retrouvé, c'est un des romans qui sont repris dans le recueil européen de Philippe. Tu remarqueras que je suis un bon agent littéraire.
Oui, ça va.
Donc Cette chère humanité, je vous en conseille la lecture, parce que ça, c'est un roman politique, réellement. Et à l'époque, il y en a eu pas mal de romans comme ça, qui posaient les vrais problèmes sur le vrai terrain politique, mais tout ça était occulté par l'écume. C'était tout le bruit, tout ce qu'on faisait autour des d'auteurs présentés comme nouveaux, alors comme si nouveau amenait un avantage supérieur.
Voilà. Oui, donc, de toute façon, comme je le disais au début, la science-fiction, on peut dire quand même que la grosse différence, c'est que par rapport à la science-fiction américaine d'avant-guerre, où on ne peut pas dire que le politique apparaisse vraiment nettement. Hein. C'est quand même une littérature d'évasion avant tout. Bon, il y a évidemment, si on peut faire une lecture politique de tout ouvrage, mais ce n'est pas exactement ça qui préoccupait les auteurs américains, jusqu'à ce qu'apparaisse la génération de galaxies, où justement des gens comme Shelley, des gens comme Sturgeon, ont vraiment amené une vision beaucoup plus politique que n'était la science-fiction américaine d'auparavant. Et puis on peut dire que c'est vrai qu'à l'époque où Ailleurs et Demain a été créé, dans l'ensemble, la plupart des auteurs, que ce soit par exemple André Rueland, qui lui est un anarchiste militant depuis toujours, il a écrit Tunnel, qui est un roman politique anarchiste puissant, mais à ce moment-là, bien avant que Bernard Blanc en intervienne. Donc on n'a pas eu du tout besoin de lui pour faire de la science-fiction à l'intérieur de laquelle il y avait de la politique. Je pense que donc on n'avait pas eu besoin de lui, il a simplement neutralisé un certain nombre d'auteurs. C'est dommage, mais ça n'est pas très grave.
Oui, tu fais bien de citer cet exemple de Galaxy, qui, parce que c'est intéressant. Galaxy, c'est une revue qui... Les auteurs d'avant-guerre sont publiés dans des pulps.
Oui.
Et même Astounding Science Fiction est un pulps.
Oui.
Galaxy, c'est une revue qui est publiée au début des années 50. Et il s'est passé un petit événement relativement important pendant les années de guerre, c'est qu'il y a deux bombes atomiques qui ont explosé sur le Japon, et que dans les années 50, on se rend compte des conséquences qu'ont eu ces bombes atomiques de manière très 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 forte. Et donc, le fait que la science-fiction américaine devienne politique, elle est très liée aussi au fait que d'un seul coup, on découvre les phénomènes des mutants et tout ce que ça implique. De manière à les mutants, les mutations, il y a que les scientifiques qui connaissaient un petit peu ce qui pouvait se produire avant. Là, c'était l'ouverture à tout le monde, et à un moment où dans le pays, il y avait des gens qui vendaient des abris anti-atomiques familiaux. Donc, tout le monde était sensibilisé à ça, et la science-fiction a effectivement devenu une science-fiction assez pessimiste.
Oui. Beaucoup plus.
Oui, allez-y.
Oui. Il y a un truc, je trouve, parce que moi, je suis plutôt venu du dollar et déterminement à la science-fiction, pas à la science-fiction politique. Je pense qu'il y a une spécificité dans la science-fiction, c'est qu'il y a des chapelles. Des chapelles et des guerres, des revues et des guerres. Des guerres de. Moi, je me rappelle dans les années 80, quand j'avais des études, par quelqu'un comme Francis Valéry. Pouvait mener des guerres dans des éditos.
Oui, oui, oui.
Alors que dans le polar, il y avait le néopolar, il y avait Mosconi avec Engrenage, il y avait Fajardi avec. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là.
C'était chez Néo.
Oui, au fauteuil avant.
Sanguine.
Sanguine. Oui, Sanguine. Mais il y a des textes délirants, hein. Il y a des textes gauchisants. Et autant emporte les vents, un truc c'est un polar guerre, narco-guerre. Autant emporte les tentes, s'il te plaît. Hein, c'est des trucs complètement délirants, gauchisants, assez. Mais il n'y avait pas de mise à l'écart. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de revue. Il n'y a jamais eu de vraie revue de polar avec des éditorialistes qui pouvaient se permettre, dans l'édito, de dire celui-là, c'est un. Alors que dans la SF, il y a eu des guerres de revue.
Non, on ne peut pas dire ça, simplement Francis Valéry a voulu faire exactement ce que fait Bernard Blanc sans employer les belles méthodes.
Il y avait des gens pour le répondre,
je pense. Pas. Ceci dit, vous vous trompez hein, sur le monde du polar que je connais bien. Il y a eu des bagarres, des chapelles, et là ils se sont battus à coups de poing.
Il n'y avait pas de revue pour.
Alors que dans la SF, j'ai jamais vu ça.
Ah non, la SF était très paisible.
Oh, mais les guerres de revue, on existait.
Les revues, elles étaient terminées. Hein. C'était Opta. Le directeur d'Opta de l'époque emmenait sa secrétaire, paraît-il. Hein. Il ne rapporte que des ondings, là. Emmenait sa secrétaire et il a dilapidé tout ce qu'a représenté. Hein.
Oui.
Philippe peut en parler mieux que moi. Tout ce qu'a représenté Opta, tant sur le plan de la science-fiction que sur le plan du polar. Mystère Magazine, Hitchcock Magazine, c'était des magazines qui se vendaient très bien.
Oui, quand on pense quand même que fiction, quand même, qui était une revue littéraire, si on l'examine attentivement, a atteint à un certain moment 40 000 exemplaires, et donc après est descendu jusqu'à 28 000 à peu près, et quand Maurice Renaud a racheté Galaxy pour faire les deux, donc il tirait à peu près à 14 000 exemplaires chacun, donc... On voit que là, il n'y a pas beaucoup de revues littéraires qui tirent à 14 000 exemplaires.
Ouais. Et les deux autres, qui étaient toujours chez Maurice Renaud, Mystère Magazine et Chuck Magazine, vendaient aussi très bien.
Parce que Maurice Renaud était un personnage extrêmement petit bourgeois français dans l'ancien, mais qu'il avait un sens du commerce absolument extraordinaire. Et il avait ce qu'on a essayé de faire par la suite, enfin pas nous, mais le propriétaire de science-fiction qu'on avait fait avec Klein et Fassbender. Et il avait inventé un système extraordinaire, c'est qu'il avait des gens qui passaient et qui obligeaient tous les kiosquiers à mettre fiction
devant, en pile. Et donc, quand on a un journal, une revue en pile devant, automatiquement, on l'a fait. Et avec science-fiction, donc, c'est un ancien diffuseur comme ça qui avait inventé de faire paraître Paris Turf systématiquement dans tout, au lieu de l'imprimer tout à Paris et décentralisé, il avait fait des imprimeries un peu partout en France. Et à partir de là, donc, Paris Turf a développé ses ventes extraordinairement. Et donc, science-fiction, la revue qu'on a faite, c'était lui qui l'avait financée. Et donc, il a fait la même chose. Il avait pris 8 représentants, dont ils étaient tous payés très, très largement. Et ces 8 représentants sillonnaient la France. Et donc, on a vendu 40 000 exemplaires de cette revue, qui a duré 7 numéros. Mais après, il y a eu un déficit absolument gigantesque.
Monsieur Rine, question. Bien fort pour les gens.
Ouais. On a parlé d'une décade donc, où il y avait beaucoup d'engagement politique de la part des auteurs de science-fiction. Effectivement, il y avait un contexte important avec Mai 68, etc. Et je voulais savoir si, avec le renouveau politique, avec Nuit debout, etc., les questions écologiques sont extrêmement importantes, encore plus importantes aujourd'hui qu'auparavant. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez d'un renouveau d'une SF politique. Est-ce que vous pensez que ça peut se renouveler? Est-ce que dans l'avenir, ça peut avoir de l'impact?
On peut dire quand même que quand Mario Mazurik a pris la direction de J'ai lu après Sadoul, et qu'elle a fédéré autour d'elle Ayerdal, Serge Lehmann, j'en oublie. Oui. Elle a essayé de faire, et ces auteurs-là étaient quand même des auteurs qui sont quand même très politiques. Et peut-être que leurs romans ne font pas politique avant tout, mais ils sont chargés politiquement tous. Donc là, il y a eu quand même une espèce de mouvement qui s'est traduit chez J'ai lu par un certain nombre d'auteurs qui vraiment renouvelaient un peu l'idée de la science-fiction politique française.
Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est aujourd'hui le phénomène des sans-papiers. Parce que là, on parle d'une SF politique à gauche, pour le coup. Aux États-Unis, on a un mouvement de droite, hein, et de droite, de droite, droite, probablement, qui essaye par exemple de mettre la main mise sur le prix Hugo. Donc on a des phénomènes politiques qui balayent, même si chez nous en France, pour le coup, elles balayent de manière assez douce, hein, vu les ventes de la science-fiction. Mais par contre, aux États-Unis, on a des mouvements inverses, assez forts.
Ce qu'il faut regarder, c'est en allant plus en arrière. On a quand même dans des périodes données de l'histoire des science-fiction extrêmement politiques. Quand il y a un bouquin là sur Capitaine d'Henri Drian, quand on lit cette littérature de la fin du 19e, elle est très politique, elle est patriotique, hyper nationaliste, enfin tout le monde va nous tuer, xénophobe, etc. Quand on lit les ouvrages, ça ne s'appelait pas de la science-fiction, hein, mais les utopies ou les anticipations des années 30, c'est un lieu où on trouve absolument, d'ailleurs tout et son contraire. Il y a des écrivains fascistes, ouvertement fascistes, qui utilisent ce mot, qui décrivent des sociétés idéales fascistes. La France devient fasciste, ouf, enfin on est sauvé. On a à l'inverse des gens comme Jean Grave, au début du XXe siècle, qui était un militant anarchiste, qui a écrit deux utopies pour enfants, pour décrire ce que pouvait être un monde libertaire. Messac, quand on lit les bouquins de Messac, 1936-37, si je ne me trompe pas, Quinzain-Zinzili, c'est une charge anticléricale et anti-bourgeoise absolument extraordinaire. Léon de Grelle, qui était chef du mouvement rexiste, fasciste, collaborateur en Belgique, quand il s'est réfugié chez Franco, il a publié une guerre future où il reprend ses vieilles lunes d'extrême droite. Donc il y a toujours eu ça. Et puis dans les périodes creuses, il y a l'idéologie dominante. Et c'est vrai que le fleuve noir, quand on regarde le fleuve noir de l'époque, c'est quand même l'idéologie dominante, c'est quand même le progrès BA, la technologie, la hiérarchie, c'est des militaires, etc. Donc c'est pas étonnant que eux ils s'étiquetaient pas politiques pour le coup. Et donc c'est pas étonnant qu'à dans l'effervescence de post-68, il y ait des gens qui aient eu l'idée d'estampiller politique contre l'idéologie dominante, et ça a donné des caricatures. Enfin, moi je vois ça comme ça.
Oui, mais si on pense par exemple à un auteur très important comme Barjavel, évidemment Barjavel était un péténiste.
Absolument.
Important, il a écrit des bouquins sublimes comme Ravage, mais la fin de Ravage est complètement d'une réaction épouvantable, puisqu'après la perte de l'électricité, donc on revient à un monde d'avant la technologie. Et il se trouve qu'un matin, un jeune homme invente le moteur à vapeur et que le chef de cette tribu fracasse l'inventeur de la machine à vapeur à coups de hache.
Oui. Plutôt référence au mouvement des Luddites.
Oui.
Et ça, je ne sais pas si on peut le classer vraiment à... C'est plutôt un mouvement anarchiste.
Barjavel ?
Non. Non.
Alors.
Quand vous dites le mouvement des Luddites, c'est le mouvement de casse des machines, en fait.
Oui.
Mais lui dit, oui.
Mais...
C'est un mouvement plutôt classé à gauche et anarchiste.
Mais pas chez Barjavel.
Chez Barjavel, je ne sais pas. Non, vous savez pas qui était Bétain.
La France de Ravage, on ne parle pas des patriarches.
Travail, famille, patrie, ça me faisait penser à
Barjavel, c'est extrêmement difficile d'avoir une opinion tranchée. Parce que moi, je veux bien que Ravage paraisse dans Je suis partout et que ça coïncide avec une certaine idéologie du retour à la Terre. Je vous ferai remarquer quand même qu'à chaque fois, chaque roman dans lequel on décrit une société post-cataclysmique, on revient à une société patriarcale et agricole comme il y en avait avant jusqu'à la fin, enfin la première moitié du 19e. Et j'ai trouvé des textes de Ravage, de Barjavel, pardon, juste avant la guerre, non pas dans la presse d'extrême droite, mais dans Ce soir, le canard d'Aragon. Alors, vous savez, les choses sont compliquées.
Oui, les choses sont compliquées. Non, mais simplement, il y a eu cet épisode de Ravage qu'on ne trouve pas dans la... Comment ça s'appelle le roman sur le temps.
La nuit des temps. La nuit des temps.
Non, pas la nuit des temps.
Le voyageur imprudent,
c'est au contraire, il y a une espèce d'utopie matriarcale à la fin, tout à fait étrange, avec la mer géante dans laquelle les petits hommes pénètrent pour la féconder. Non, de toute façon, Barjavel est un très grand écrivain de science-fiction, je trouve que... D'ailleurs, par la suite, alors, très longtemps, il a lutté contre le fait qu'on le traite d'auteur de science-fiction, et il ne voulait absolument pas avoir... Après, on l'a rencontré, il a écrit des textes promouvant la science-fiction et il était complètement partenaire à part entière. De toute façon, lui, il avait échappé à la malédiction de l'auteur de science-fiction.
Je sens que la discussion va nous emmener loin. Il nous reste 5 minutes. Cette nouvelle science-fiction politique française, en reste-t-il des choses aujourd'hui, 30 ou 40 ans après?
Des décombres.
Des auteurs, des livres, des idées, des...
Non, je dirais que c'était peut-être un épisode. Ça n'a pas été un épisode inutile. Ça a pu être désastreux pour certains. Mais je pense que ça a été utile qu'il y ait ce débat autour de la dimension politique de la science-fiction. Les choses ont été peut-être. Sont devenus plus nettes à partir de ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Pas grand-chose. Et je pense qu'on pourrait essayer, une idée, on pourrait essayer de faire une anthologie de la science-fiction politique française des années 70. Je crois que c'est Lionel Evrard qui, actuellement, travaille sur ce projet. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est si susceptible de donner, mais justement, je suis un peu... Non, mais...
Oui, ça trouve intéressant.
Il faut pas... Ça serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain, et de jeter toute la science-fiction qui s'auto-proclamait politique de cette époque avec Bernard Blanc.
Mm-hmm. Ah, absolument.
Oui, il en reste pas grand-chose. Simplement pour revenir sur le fleuve noir tout à l'heure, les débuts du fleuve sont marqués par le fait que l'éditeur a intégré beaucoup de gens qui venaient de Belgique, qui s'étaient réfugiés en France, un petit peu comme le frère de Georges Simenon, parce qu'ils avaient fait, ils avaient eu des idées politiques qui les avaient menés un peu loin et qui leur auraient valu des ennuis dans leur pays. Donc, effectivement, il y avait un espèce de petit substrat peut-être pas fasciste, mais au moins rexiste.
Ben, il y a par exemple l'exemple de B.R. Bruce, que j'ai bien connu, qui se cachait complètement dissimulé parce qu'il avait été quand même sous-secrétaire d'État à la Santé sous le régime de Pétain. Donc, c'était un personnage qui avait une imagination extraordinaire et qui a écrit des extrêmement beaux livres, qui n'était pas particulièrement marqué par la droite, mais bon, il a été sous-secrétaire d'État pendant la guerre, donc il a été vraiment proscrit et il écrivait en sourdine sous de différents noms. Puis après, il s'est appelé Blondel, puis après...
Voilà.
Merci à vous, c'était passionnant. On peut continuer encore le débat après, on va terminer cette table ronde. Merci.